Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Ravi de vous accompagner jusqu'à 9h, temps universel. Vous nous appelez, RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la ZLEC, la zone de libre-échange continentale africaine. L'objectif est de faciliter le commerce entre les pays africains pour stimuler la croissance, créer des emplois et à terme, évidemment, contribuer au développement du continent. Cet ambitieux projet a officiellement été lancé hier. Il entrera pleinement en vigueur dans un an. Et d'ici là, il va falloir harmoniser les législations commerciales, harmoniser les règles douanières. C'est très compliqué, c'est très technique. Il faudra évidemment des routes en bon état pour transporter les marchandises. Alors croyez-vous en ce projet? Quelles retombées économiques votre pays peut-il attendre de ce marché commun africain? Vos réactions, vos témoignages nous intéressent. Vous nous appelez 33 9 693 693 70 et continuez évidemment à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RFI, appel sur l'actualité. Mais d'abord, votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Des questions pour commencer sur le dossier du nucléaire iranien. Dingamro est avec nous. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous appeler de Libreville et toutes mes excuses, j'ai un peu écorché votre prénom. Quelles sont vos questions?
L'Iran a annoncé hier un soupçon d'uranium à un niveau supérieur à celui prévu par l'accord de 2015. À ce sujet, j'ai deux questions. La première, comment les Iraniens justifient cette augmentation?
Alors, on va déjà répondre à cette première question. Le réseau téléphone n'est pas très bon, à mon avis. On vous a demandé de sortir et vous êtes resté à l'intérieur, donc on a du mal à vous comprendre. Sami Boukhalifa est à mes côtés. Bonjour Sami.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI. La semaine dernière, l'Iran a annoncé avoir dépassé le seuil de 300 kilos d'uranium faiblement enrichi, fixé par cet accord conclu en 2015 sur le nucléaire iranien. Puis, coup de théâtre, hier, Téhéran a annoncé qu'elle allait enrichir son uranium à un degré supérieur défini par ce même accord. Comment expliquer que les autorités iraniennes décident maintenant de violer ce texte?
Eh bien, il s'appuie d'abord sur un article de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015, en juillet 2015. Et cet article, c'est l'article 36 qui prévoit que si l'un des partenaires de cet accord, eh bien, suspend ses engagements ou se retire, eh bien, le camp d'en face a, en théorie, lui aussi le droit de suspendre ses engagements momentanément. Et il s'agit là du retrait américain de l'accord. Il ne faut pas oublier, c'est en mai 2018, donc sous la présidence de Donald Trump, que Washington décide unilatéralement de se retirer de cet accord. L'Iran a fait preuve de patience pendant une année en disant « Regardez, nous, on a joué le jeu depuis 2015. Vous nous avez demandé de dévoiler, d'ouvrir nos installations nucléaires aux inspecteurs de l'AIEA. On l'a fait. » Et en contrepartie, le deal de cet accord, c'était que l'Iran bénéficie enfin des retombées économiques tant attendues de cet accord. Et en l'occurrence de la levée des sanctions internationales, des sanctions américaines aussi, mais sauf que ça n'a pas eu lieu. Enfin, ça a commencé sous la présidence de Barack Obama.
Mais le retrait des Américains.
Mais le retrait des Américains a fait en sorte de compliquer la situation. À partir de 2018, donc de mai 2018, Donald Trump décide unilatéralement de dénoncer cet accord. Il se retire unilatéralement, réimpose des sanctions sur l'Iran. L'Iran subit pendant une année et puis finit par dire trop c'est trop.
Oui.
En mai 2019, date symbolique, au même jour du retrait américain, les Iraniens décident, annoncent qu'ils vont commencer eux aussi à suspendre certains de leurs engagements.
Vous disiez à l'instant trop c'est trop pour les Iraniens, d'autant que les entreprises étrangères qui étaient revenues en Iran ont depuis le retrait américain quitté le pays puisque elles aussi risquaient d'être sanctionnées par les États-Unis. C'est un moyen également pour l'Iran de faire pression sur les Européens qui sont également signataires de cet accord.
C'est l'objectif aujourd'hui parce que il ne faut pas se voiler la face. C'est l'Iran qui suspend aujourd'hui certains de ses engagements. Ça n'ouvre pas la porte à l'arme atomique pour les Iraniens. Au contraire, en fait, c'est des décisions imminemment politiques. L'Iran suspend certains de ses engagements pour faire pression sur ses partenaires européens, parce que les partenaires européens tiennent à l'accord, ils veulent rester dans l'accord, sauf qu'ils ne font rien. Depuis une année, l'Iran exhorte les partenaires européens à agir, à faire quelque chose. On a à un moment parlé de ce mécanisme de troc qui a été mis en place pour aider l'économie iranienne, le mécanisme INSTEX, et un an après, en fait, cet accord,
toujours rien.
Il n'y a rien de concret pour les Iraniens.
Vous aviez une autre question ?
Oui, Juan, les pays encore signataires de cet accord, qu'est-ce qui les mettent en phase de sanctions ?
Alors, j'imagine évidemment qu'en ne respectant plus ses engagements, Téhéran risque de nouvelles sanctions, les sanctions désormais européennes, chinoises, russes.
En théorie, oui, mais les uns et les autres tiennent plus que jamais à cet accord. Vous savez, cet accord est le fruit d'années de travail diplomatique. Ça a mis des années et des années à l'obtenir. Donc aujourd'hui, les uns et les autres, et lorsqu'on parle surtout des partenaires européens avec à leur tête la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, eh bien, on cherche plutôt à sauver l'accord qu'à réimposer des sanctions. Alors bien sûr, le discours diplomatique, il est ferme. Emmanuel Macron s'est entretenu ce week-end avec le président, son homologue Hassan Rouhani, le président iranien. Il a fait preuve de fermeté. Il appelle l'Iran à tenir ses engagements. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de rester dans cet accord, dans le texte de cet accord, parce que c'est un accord qui est véritablement historique lorsqu'il a été conclu. Et l'idée aujourd'hui, c'est de le préserver et de faire en sorte que l'Iran reste et tous les autres partenaires restent aussi dans le cadre de cet accord.
À suivre donc. Merci Sami Boukhalifa d'être venu répondre à Dingamro qui nous appelait donc de Libreville au Gabon. Il est 10h17 à Paris. Vos questions au standard 33 9 693 693 70. Bonjour Mamadou.
Ah, bonjour.
Merci de nous appeler de Freetown en Sierra Leone. Vous avez des questions sur le projet de réforme constitutionnelle en Guinée.
Oui.
On vous écoute.
Ok, une note confidentielle qui vante les avantages de la réforme de la Constitution en Guinée a été publiée sur les réseaux sociaux. Ma première question, elle est la suivante. Sait-on comment cette lettre a-t-elle pu être rendue publique?
Ah, effectivement, un document du ministère des Affaires étrangères guinéen circule sur les réseaux sociaux. Cette note invite les ambassadeurs de Guinée, à travers le monde, à faire la promotion de la nouvelle Constitution. Bonjour Carole Valade.
Bonjour Juan, bonjour Mamadou.
Correspondant de RFI à Conakry, avant de répondre à la question de Mamadou, un petit rappel tout de même. Cette note, que contient-elle ?
En fait, c'est un argumentaire qui explique pourquoi et comment il faut changer de constitution. Alors d'abord parce que l'actuelle constitution manquerait de légitimité. Elle a été adoptée en 2010 par le CNT, qui faisait office à l'époque d'Assemblée nationale pendant la transition militaire, mais dont les membres n'avaient pas été élus. Ensuite, elle dit qu'il faut réduire le nombre d'institutions pour faire des économies. Il est aussi question d'instaurer un poste de vice-président. Et enfin, qu'il faut intégrer des préoccupations sociales, environnementales, comme l'abolition de la peine de mort, des mutilations génitales, des mesures qui, pour la plupart, sont déjà inscrites dans les textes de loi, sans forcément être respectées.
Ouais, alors, ce document qui circule donc sur les réseaux sociaux, ce document a été authentifié par le ministère des Affaires étrangères. Comment un tel document peut-il se retrouver comme ça, sur Facebook, sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on a un élément de réponse, Carole Valade ?
Alors j'ai contacté un membre du ministère qui m'a dit que l'enquête n'a pas encore commencé, mais qu'il y a quand même des pistes. La première, elle concerne la cellule de communication du ministère. La note, elle était destinée aux diplomates guinéens dans le monde, mais le service aurait ajouté d'autres destinataires qui, au départ, ne devaient pas être dans la boucle. La seconde, c'est simplement celle d'un diplomate qui a reçu la lettre, mais qui serait opposé au projet. Et la dernière, qu'il faut pas écarter, bien sûr, c'est celle d'une fuite volontaire pour tester, en quelque sorte, pour voir comment réagit l'opinion aux différentes propositions qu'elle contient.
Ouais. Sait-on pourquoi et par qui cette note a été écrite ?
Alors fin mai, lors de la conférence diplomatique, les ambassadeurs auraient demandé des précisions sur ce projet qui est vraiment au cœur des débats en ce moment à Conakry. Car il faut rappeler que si le chef de la majorité présidentielle dit que la nouvelle constitution est presque terminée, personne ici ne l'a officiellement encore consulté. Donc le ministère aurait écrit cette note sur demande de la présidence pour donner des arguments aux ambassadeurs.
Ouais. À suivre, et on aura l'occasion évidemment d'en débattre. On en a déjà parlé vendredi dans la Libre Antenne, mais on organisera un débat dans les prochains jours. Mamadou, vous avez une seconde question ?
Oui.
Allez-y.
Okay, ma deuxième question, selon les juristes, on n'est pas en droit de soumettre une nouvelle constitution guinéenne. Sur quoi se base-t-il pour affirmer cela ?
Ah, je reprends votre question, Mamadou. Le réseau téléphone s'est dégradé avec Freetown. Carole Valade, c'est vrai que plusieurs juristes affirment que le président Conté n'a pas le droit de soumettre une nouvelle constitution aux Guinéens. Concrètement, sur quoi se basent ces juristes pour tenir de tels propos?
En fait, ils soutiennent que la Constitution prévoit les conditions de sa révision, mais pas de son remplacement, en soulignant qu'il n'y a pas eu de rupture de l'ordre constitutionnel, comme par exemple un coup d'État. Et donc, en fait, ils pensent qu'il s'agit d'une stratégie pour permettre au président de la République de briguer un troisième mandat. En fait, la note, elle reprend essentiellement les arguments de Maître Zogbelemou, qui est un ancien ministre de la Justice, qui s'appuie sur l'histoire constitutionnelle française, pour dire que le peuple a le droit souverain de changer sa Constitution, et que le président peut en proposer une nouvelle par référendum en utilisant l'article 51. L'opposition, elle rétorque que cet article prévoit un référendum législatif, mais pas constitutionnel, parce qu'une nouvelle constitution, elle sera forcément contraire à celle en vigueur, et donc qu'elle pourra difficilement faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Le pouvoir répond que la Cour constitutionnelle ne statue que sur les formes, à savoir est-ce que la procédure a bien été respectée. Bref, vous voyez que le débat est loin d'être clos. D'ailleurs, cette semaine, le président de l'Assemblée nationale s'est à son tour prononcé en faveur d'une nouvelle constitution.
On aura l'occasion d'en parler avec nos auditeurs guinéens dans les prochains jours. Merci beaucoup, Carole Valade, correspondant de RFI à Conakry. Mamadou, continue à écouter RFI à Freetown. Merci de votre fidélité. 10h22 à Paris. Abdoulaye Ourali, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous.
Correspondant de RFI à Maurice, nous vous avons contacté ce matin car nous avons des questions sur le contentieux territorial qui oppose Maurice à la Grande-Bretagne. Des questions qui nous sont posées par Bamoutaga. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, merci bon, de nous...
Merci à RFI.
Merci.
Le Premier ministre mauricien veut organiser le retour des exilés cargossiens chez eux. Mais l'archipel est toujours administré par la Grande-Bretagne. Alors moi, j'ai deux questions. Comment le Premier ministre compte-t-il s'y prendre? Et deuxièmement, pourquoi la Grande-Bretagne refuse-t-elle de mettre fin à son administration alors que l'ONU a pris une résolution dans ce sens?
Oui, effectivement, c'est vrai qu'en mai dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. Abdoulaye Ourali, on a suivi la semaine dernière, effectivement, les propos du Premier ministre mauricien qui se dit, lui, déterminé à réinstaller les Chagossiens chez eux. Quand on sait que l'archipel est occupé par les Britanniques, comment compte-t-il s'y prendre?
La grande question du moment, en effet, et c'est une excellente question de votre auditeur. Le bureau du Premier ministre veut présenter aujourd'hui une stratégie, une nouvelle stratégie, après cette double victoire diplomatique en février et récemment en mai dernier, donc au niveau international. Une stratégie pour qu'on peut résumer ainsi, cette année, nous irons aux Chagos. Cela veut dire reléger les Chagosiens chez eux. Le Premier ministre Pravin Jugnauth l'a annoncé clairement à l'Assemblée nationale, et vous l'avez dit également, Juan, c'était il y a une semaine, sans préciser cependant comment.
Ah.
Les Chagossiens, pour leur part, ont annoncé qu'ils vont s'y rendre par bateau. Là aussi, c'est la question de savoir comment. Le bureau du Premier ministre et les Chagossiens travaillent ensemble, c'est ce que je peux vous dire sur ce projet qui a l'air pour l'instant d'être irréaliste, risqué, mais c'est un moyen, allons dire, pour faire pression, un moyen pour exercer une pression sur les Britanniques et les Américains. Pour l'heure, nous pouvons simplement parler d'une décision et d'un moyen de faire pression. Quant au comment, je pense qu'il faudra attendre.
Ouais, donc pression sur les Britanniques et d'une certaine façon également sur les Américains, puisque rappelons que la Grande-Bretagne loue l'île de Diego Garcia aux Américains, où les Américains ont installé sur place une base militaire. Abdoulaye Ourali, il faudrait peut-être des heures pour essayer d'expliquer à notre auditeur pourquoi la Grande-Bretagne refuse de se retirer de l'archipel des Chagos. Quel élément de réponse pouvez-vous donner comme ça en une petite minute?
Eh bien, il y a deux raisonnements des Britanniques, ce sont les raisonnements évoqués récemment à Londres. D'abord, Londres dit, je cite, « n'avoir aucun doute sur sa souveraineté sur les Chagos et qu'elle est propriétaire de ces terres depuis 1814 ». La deuxième raison est pour des raisons sécuritaires. Alors, Londres est convaincue qu'elle est dans son bon droit et en même temps, elle dit qu'elle a besoin de ce territoire pour maintenir la paix dans le monde. Je me réfère encore une fois aux déclarations faites à Londres à l'ONU, par Londres. Il dit que le maintien de la sécurité et de la stabilité de la région de l'océan Indien est essentiel au maintien de la paix et de la sécurité internationale et régionale. Voilà un peu les arguments appuyés, les arguments présentés par Londres pour dire que nous avons besoin de rester sur ce territoire. Diego Garcia.
Ouais. Abdullah Eurali en direct de Maurice. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bamoutaga, bonne journée à Abidjan. En Côte d'Ivoire, il nous reste 4 minutes. On a le temps de prendre une dernière question ce matin. Bonjour Aoui.
Bonjour Anne.
Vous êtes à Bujumbura, au Burundi. Vous avez des questions sur l'Algérie et notamment la main tendue du président par intérim.
Oui, c'est ça. Le président algérien par intérim a lancé un appel à un dialogue national inclusif pour préparer les élections. Mais il exclut la participation de l'État et des militaires. Pourquoi parler de dialogue inclusif si certaines parties sont exclues?
Ah, ça c'est une très bonne question. Kader Abderrahim, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste du Maghreb, directeur de recherche à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. La question de notre auditeur est une question de bon sens. Le président par intérim parle de dialogue inclusif, mais en même temps, on exclut l'État et les militaires.
Écoutez, les militaires, ça paraît assez légitime, dans la mesure où un soldat, quel que soit son rang, son grade, doit obéir et doit être placé sous le commandement et sous l'autorité de ceux qui sont élus par la nation. Ça, c'est le premier aspect. Et enfin, rappelons quand même que, pour ce qui concerne l'Algérie, on est dans un contexte historique et politique dans lequel aucun des gouvernements n'a jamais eu aucune légitimité. Et c'est la raison pour laquelle le président par intérim Ben Salah propose un dialogue dans lequel les militaires et les représentants de l'État, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, ne seraient pas partie prenante de ce dialogue, puisque la contestation est partie de la société, et que c'est cela qu'il faut tenter de renouer, le dialogue entre la société et les représentants de l'État.
C'est un moyen, le fait d'écarter les militaires et l'État, c'est finalement un moyen de donner des garanties à ces milliers, ces millions d'Algériens qui manifestent dans la rue en leur disant, voyez, les prochaines élections seront organisées en toute liberté, en transparence, puisque ni les militaires ni l'État ne participeront à ce dialogue national.
Alors je ne sais pas vous dire si ce sera suffisant pour rassurer la population algérienne. Mais on peut considérer quand même que c'est un geste important de la part de l'ancien président du Sénat, le président par intérim Ben Salah. Et maintenant, on est dans une telle situation de blocage en Algérie qu'il faut débloquer la situation. Cela a commencé le week-end dernier avec la présidence de Abdelaziz Rahabi pour cette plateforme de dialogue national. Maintenant, il faut avancer vers de véritables idées et de véritables valeurs. Je crois qu'il ne faut pas s'accrocher à l'idée d'une date pour une élection présidentielle, mais qu'il faut au contraire mettre sur le papier des idées, des valeurs qui rassemblent les Algériens autour de quelques idées simples, notamment la transition pour aller vers un système politique qui soit démocratique.
Oui, je sais que vous aviez d'autres questions. Malheureusement, on est pris par le temps. Donc on essaiera de vous rappeler d'ici la fin de la semaine, évidemment, pour que vous puissiez avoir vos réponses. Kader Abderrahim, merci à vous d'avoir pris quelques minutes pour répondre à un auditeur d'RFI. C'est le principe de l'émission. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez peut-être un complément d'information, eh bien vous nous appelez 339 693 693 70. On répond en direct tous les matins à vos questions. Si vous souhaitez plutôt communiquer avec nous via les réseaux sociaux, eh bien n'hésitez pas là aussi. Envoyez-nous vos coordonnées sur message privé. Évidemment, ça évitera que tout le monde ait accès à votre numéro de téléphone personnel. À suivre, dans 10 minutes, notre débat consacré à la ZLEC, la zone de libre-échange continentale africaine, un marché commun de plus d'1,2 milliard de consommateurs. Reste à savoir, évidemment, quelles seront les retombées économiques pour vos pays respectifs. On en parle dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.